Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons cette année noter une particularité liturgique que nous rencontrons durant tout le carême, qu'est ce que nous appelons la station. Chez les anciens romains, le mot de station désignait un poste de gens armés ou de sentinelles en veille. Cette terminologie a été reprise très tôt, au moins dès le IIIe siècle, par les chrétiens. Tertullien, en particulier, en fait un usage fréquent. Pour lui, la station des chrétiens constitue la garde que montent certains jours les fidèles, la milice de Dieu. Pour le jeûne et la prière ardente et que couronne le Saint-Sacrifice de la Messe. Si la station, dit-il, a reçu son nom de l'exemple militaire, nous sommes en effet la milice du Christ. C'est parce que dans les camps, ni joie ni tristesse n'empêchent le soldat de faire sa station. Le pape avait coutume de célébrer la messe dans l'église qui faisait station. En ce premier dimanche de carême, le pape faisait station au Latran. Cette basilique est importante car c'était la maison de Fausta, qui appartenait déjà sous Néron à la famille Laterani. Constantin la donna au pape Melchiade et le palais devient dès lors et pour toute la durée du Moyen-Âge, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, elle devint la résidence eh bien, des papes. Aujourd'hui, les temps ont changé. La maison Saint-Thomas d'Aquin, on nous ne l'a pas donnée, mais nous l'avons achetée. Et maintenant, eh bien, il faut s'occuper des banquiers. Et donc, nous cherchons toujours des bienfaiteurs. En réalité, rien n'a changé. Rien n'a changé puisque le but d'une maison religieuse est d'être un foyer pour l'âme et son développement. Le Latran, qui porte le titre de mère et maîtresse de toutes les églises, de la ville et du monde, fait que le pape est l'évêque de Rome, et parce qu'évêque de Rome, il est le pape de toute l'église. Quid de la maison Saint-Thomas d'Aquin ? Certes, elle n'aura pas la même destinée que l'illustre maison de Fausta, mais elle sera la servante de vos âmes pour vous nourrir des sacrements et le bouclier de vos âmes contre les erreurs par la défense de la vérité dans le combat de la foi, pour reprendre une expression paulinienne. Vous, mes chers fidèles, vous êtes pris dans cette aventure de la foi, car le but d'une communauté, d'une maison spirituelle, et de conduire vos âmes au ciel, but de notre vie. C'est pour cela qu'il est important que nous grandissions mutuellement dans la prière et le rendez-vous de la messe quotidienne peut servir noblement à fonder ce socle. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont fait cette semaine un effort en venant à la messe en semaine, ne serait-ce qu'une seule fois. Cependant, ne perdons pas de vue que si notre âme est faite pour le ciel, notre corps va redevenir poussière. Et c'est pourtant avec notre corps que nous allons servir l'âme. Il est son écrin, son tabernacle, et je dirais même sa garantie de salut. Oui, en effet, mes chers amis, en fonction de ce que vous ferez de votre corps, l'âme sera belle ou laide, joyeuse ou damnée. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher appartiennent au corps, mais se répercutent sur la vie de l'âme. Une communauté de prêtres a aussi besoin des choses du corps, mais l'ouïe, qui permet d'entendre la femme de sa vie. les enfants de sa chair, dire « Je t'aime, mon chéri, je t'aime, papa », le prêtre ne l'entendra jamais, car il s'est consacré au célibat pour mieux servir vos âmes. La vue, le prêtre ne verra jamais ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la quatrième génération, car il a fait vœu de chasteté pour servir vos âmes. L'odorat, l'odeur propre à chaque famille qu'on retrouve dans les vieilles maisons, il ne laissera pas sa marque, car il a renoncé à avoir une famille pour servir la vôtre. Le goût, ah, le goût de la transmission, la fierté d'un fils envers son père, qui pourra dire « mon père », le prêtre jamais. Mais on dira « tu te souviens du père ». Et si nous prenons, nous transposons un peu dans le futur, vous, mes chers guides, vous êtes jeunes, mais en 1082, en 2082, vous vous direz, tu te souviens de ce sermon du premier dimanche de carême? C'était quand déjà? C'était en 2017. Il nous parlait des sens, de l'ouïe, de la vue, de l'odorat. Et oui, et quand est-ce qu'il nous parle de l'Évangile? Ah, l'Évangile, c'est important, ça. Moi, je lis tous les jours, ou au moins quand j'ai mes petits-enfants, je lis la Bible d'une grand-mère, de la comtesse de Ségur. Et les enfants sont marqués, ça les touche. Mais ne vous inquiétez pas, je vais y arriver à l'Évangile. Mais je profite de cette occasion pour vous inciter à lire la Bible d'une grand-mère de la comtesse de Ségur à vos enfants. Mais avant de nous intéresser à l'Évangile, il nous reste le toucher. Oui, les étreintes que des époux peuvent se faire, que des parents peuvent avoir avec leurs enfants et petits-enfants, le prêtre ne peut pas le transmettre ni le vivre, car il y a renoncé aussi pour vous. Et voyez-vous, toutes ces choses sont bonnes. Il est bon qu'il en soit ainsi. Il est bon qu'il en soit ainsi parce que le prêtre a besoin d'être tourné tout entier vers son Dieu pour vous donner le sourire de Dieu, pour vous attirer vers le ciel. Mais il a besoin aussi de votre coopération. On coopère à la grâce, on coopère à une communauté de prêtres en priant pour elle, mais aussi en participant à la vie ecclésiale. Le prêtre a besoin aussi des choses du corps. Figurez-vous, il se nourrit comme vous, il se chausse comme vous, il s'habille pas tout à fait comme vous. Il vit dans une maison comme beaucoup. Concrètement, une communauté de prêtres a besoin de l'aide matérielle de ses fidèles pour vivre afin qu'elle puisse être au service des âmes. Il n'est donc pas anormal d'y apporter votre monnaie, ce qui pourrait constituer, en cette période de carême, votre effort corporel en faveur de la maison Saint-Thomas d'Aquin, sans oublier la petite boîte pour Saint-Jean-Baptiste qui est à l'entrée de la chapelle. Rassurez-vous, ce sont des choses du corps qui resteront donc au corps, c'est-à-dire à la terre. Mais l'amour avec lequel nous nous donnons et nous nous recevons, lui appartient au ciel et constitue notre véritable trésor. Car en effet, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Nous serons jugés sur l'amour. Satan s'est bien trompé en demandant à Jésus pour voir s'il était bien le Messie, de transformer des pierres en pain, de se précipiter du pinacle, du temple et enfin de l'adorer. Jésus ne daigna, vous l'avez remarqué, pas lui donner une réponse directe, mais il lui fit observer, relativement à sa première suggestion, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole divine, et que par suite, le prodige demandé était superflu. Quant au second miracle, la présomption de l'obtenir sur un pur caprice du démon aurait été de tenter Dieu. Enfin, pour ce qui est de la troisième tentation, Jésus ne toléra plus désormais autant d'audace, mais il chassa de sa présence Satan, en disant que Dieu seul doit être adoré et servi. Les saints pères de l'Église, et spécialement saint Grégoire le Grand, dans une homélie célèbre qui fut prononcée en ce même jour devant le peuple assemblé au Latran, se demande comment Jésus put consentir à être tenté par Satan. Ils observent, les pères, qu'il agit ainsi pour participer à l'infirmité de notre nature, pour humilier et pour vaincre le tentateur à notre profit et pour nous obtenir la grâce de surmonter nos tentations par les mérites de sa victoire. Jésus voulut nous montrer aussi que le mal n'est pas d'être tenté, la tentation n'est pas un péché, mais de céder au tentateur. En outre, les tentations de Jésus, tout extérieures, puisque sa très sainte humanité ne pouvait aucunement s'y complaire, et moins encore y consentir. Ici, je voudrais vous demander peut-être un petit exercice. C'est d'avoir, durant cette semaine, et peut-être plus après, une grande dévotion spéciale à ce mystère de Jésus tenté dans le désert, puisqu'il n'y a rien de plus profond que la manière dont la divine providence fait entrer dans le plan de notre propre sanctification les hostilités même du démon, transformant la tentation en un creuset de purification et en une occasion de plus grande grâce et de profit pour notre vie spirituelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.